No.
Non.
Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pour répliquer,
ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses à ficher la poubelle.
Voilà, 19h passées de presque 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Vous êtes à l'écoute du Canu Info du jeudi, puisque nous sommes le jeudi 17 mai 2018. Le Canu Info est bien évidemment toujours animé par Delphine.
Bonsoir Laurent. L'autre côté de ce Canu Info, je dis de l'autre côté parce que tu es de l'autre côté de la vitre, côté manette studio. Technique, bien évidemment. J'explique à nos éditeurs et nos auditrices que nous sommes dans un grand château et que donc nous avons des studios absolument immenses, n'est-ce pas? Et que tu es un petit peu loin de moi, donc je dois te faire coucou.
Et nous allons parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur les conséquences liées à l'attaque, aux agressions, aux assassinats de l'armée israélienne sur les manifestants pacifistes de la bande de Gaza. On va parler un petit peu du président catalan, on va faire un petit tour au Kenya, on va parler un peu bagnole. C'est Delphine qui va parler bagnole. Moi, j'y connais rien.
En fait, c'est juste pour te faire plaisir. Oui, c'est une info pour te faire plaisir, très cher.
On parlera des profiteurs avec le PTG de la Provence. On parlera d'un spectacle qu'on a vu hier, qui s'appelle Dans la peau de Don Quichotte. On parlera ensuite d'énergie et environnement, et puis on verra bien ce qu'on fera après. Il est 19h03, passé de quelques minutes, il est temps de commencer. Revenons un petit peu sur ce bain de sang. Oui, tu voulais dire qu'il y avait du bain de sang ailleurs?
Oui, c'est juste pour rappeler qu'aujourd'hui la journée mondiale contre l'homophobie et toutes ces formes à travers le monde. Juste pour dire qu'il y avait un rassemblement aujourd'hui pour continuer à soutenir Moussa, guinéen militant de l'association AIDS à Nîmes, que la France a décidé de vouloir d'expulser, de foutre dehors de la France, alors que c'est une question de vie ou de mort. Il est bisexuel, Moussa. Si jamais on le renvoie en Guinée, il va lui arriver un malheur, c'est sûr, et la France n'étant plus une terre d'accueil, elle veut le mettre dehors. Donc pour l'instant, il est toujours en détention. La détention, malheureusement, aujourd'hui, vaut mieux que le retour en Guinée, mais ça reste quand même extrêmement malheureux. On aurait l'impression qu'à travers le monde, et en particulier en France et en Europe, être homosexuel, ben, c'est c'est bien. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de soucis. On peut se tenir par la main, on peut s'embrasser dans la rue, on peut louer un appartement, partir en vacances comme on veut. Bah, ce n'est pas vrai. Malgré la possibilité de pouvoir se paxer, se marier, la France reste un pays avec beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'homophobes, malheureusement. Moi, je voudrais juste signaler une initiative qui a fait râler beaucoup de gens. Donc, je vais la signaler. C'est qu'il y a des hôtels de région à Toulouse et Montpellier, donc des endroits très sérieux, très officiel et très administratif, qui, à côté des drapeaux français, européens et occitans et catalans, ont hissé le drapeau arc-en-ciel pour marquer cette journée. Donc ça fait, je trouve déjà que c'est plutôt bien. On pourrait malheureusement dire que c'est courageux, parce que face à la déferlante de haine que ce geste a amené, on se rend compte qu'on est vraiment dans un pays d'homophobes. C'est-à-dire que mettre un drapeau arc-en-ciel reste absolument scandaleux pour une partie de la population de notre pays. Donc ben, on peut juste dire que c'était une belle initiative et que nous on n'aime pas les drapeaux nationalistes ni régionalistes, et ben celui-ci on était bien content aujourd'hui qu'il ait été hissé, même si on aimerait bien qu'il reste finalement à vie en haut de ce mât, mais ça ne sera pas le cas.
Ou qu'il n'y ait même pas besoin de le mettre, en fait.
Mais ouais, mais voilà. Malheureusement on n'en est pas là. Voilà, donc je voulais juste ouvrir ce Canu Info là-dessus, c'est tout.
D'accord. Donc parlons du bain de sang à Gaza, enfin des conséquences, on ne va pas revenir sur le bain de sang à Gaza, vous avez tous entendu ce qui s'est passé il y a quelques jours. On va revenir sur les liens entre Israël et l'Union Européenne, puisque on a entendu quelques réactions très timorées, hein, notamment de M. Macron qui a condamné, mais très légèrement, et qui ne prendra bien sûr aucune initiative contre les assassins, parce que pour lui, le commerce est plus important que la vie humaine, donc on ne va pas, surtout pas toucher au commerce qui a lieu avec Israël. On va rappeler un peu ce que c'est que ces accords d'association, enfin cet accord d'association avec entre l'Union Européenne et Israël. Le dernier traité étant daté de mémoire de 2000. Alors, ça, il y en a eu moult avant, hein, bien évidemment. Cet accord d'association facilite le commerce. En gros, pour résumer très très vite, Israël est considéré du point de vue du commerce comme un État européen quasiment. Donc ça permet du coup à Israël de participer à des programmes et des projets européens comme n'importe quel membre de l'Union européenne. Donc il y a... dans ces programmes européens, il y a le programme un peu problématique dont on va reparler, qui s'appelle Horizon 2020. Il participe aussi au projet, par exemple, de satellite Galileo, hein, ce projet d'ensemble de satellites pour concurrencer le GPS, projet américain pour un peu sortir de l'hégémonie américaine. Pour le positionnement de tout ce qu'on pourrait imaginer sur l'ensemble de la planète. Ils participent aussi au programme Erasmus, ils n'ont pas de barrière douanière, enfin voilà, toutes ces choses-là. Alors, sur le programme notamment de la recherche, Horizon, notamment Horizon 2020, mais là on va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Israël contribue quand même, puisque du coup ils font pas que recevoir de l'argent, ils contribuent. Ils ont contribué sur le programme de recherche à hauteur de 535 millions d'euros au budget du 7e programme européen sur la recherche, donc 2007-2013. Mais ils ont reçu 840 millions d'euros. Donc au final, ils touchent de l'argent de l'Union européenne pour leur programme de recherche. Donc nous, Français, nous finançons la recherche israélienne. Et on va voir que la recherche israélienne, elle est quand même pas mal orientée. Alors... actuellement, hein, il y a le programme Horizon 2020, donc on n'a pas les chiffres, on n'aura les chiffres qu'à la fin, mais ça, il y aura à peu près le même genre d'accord, voire enfin de moyens financiers récupérés par Israël. Alors si on regarde cet accord, il y a un article très important, c'est l'article 2 de l'accord d'association, qui stipule, je cite, que les relations entre les parties devraient s'appuyer sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques qui guident leur politique intérieure et internationale, et constitue un élément essentiel de l'accord. Bref, si une des deux parties, donc l'Union européenne ou Israël, ne respecte pas les droits de l'homme, l'accord ne devrait plus s'appliquer. C'est le cas de tous les accords depuis des années qui ont été signés entre l'Union européenne et Israël. Pourtant, Israël ne respecte quasiment, pas jamais, jour après jour, les droits de l'homme. En général, au sein de sa population, il y a pas mal de discrimination, mais c'est pas le pire, bien évidemment. on notera les différentes attaques qui ont lieu à Gaza. Alors là, on parle des manifestants pacifistes, parce qu'on n'a pas vu d'armes, hein, du côté des manifestants, qui se sont fait tirer dessus, assassinés par l'armée israélienne. Mais enfin, la guerre de Gaza, il y a quelques années, toutes les opérations comme ça sont des opérations avec des massacres des populations civiles, ce qui est donc contraire aux droits de l'homme, sauf en Israël. Voilà. Donc aujourd'hui, on a cet article-là qui devrait casser tous ces accords de coopération entre l'Union européenne et l'État israélien. Et, bien évidemment, on ne casse jamais ces accords. Pourtant, il y a des précédents. En 2010, l'accord qui liait le Sri Lanka et l'Union européenne avait été cassé pour des raisons de droits de l'homme, de non-respect des droits de l'homme au Sri Lanka. On sait que les liens avec la Russie, notamment les liens économiques, ont été cassés, voire il y a eu même des sanctions, quand la Russie a envahi une partie de l'Ukraine, enfin soutenu, en fait, on va dire, une partie des Ukrainiens dans ce qui est devenu un bout de guerre civile, et puis dans l'annexion d'une partie du territoire. Pas de problème, la Russie, ils ne respectent pas les droits de l'homme, bon, ça pour le coup, la Russie a aussi pas mal de choses dessus, on met des sanctions, on casse les accords. Avec Israël, pas. Donc ça a deux problématiques, deux conséquences. La première, c'est que Israël se sent le droit de tout faire. Parce qu'il y a des enjeux économiques importants pour les entreprises israéliennes. Ben, du coup, elles savent qu'elles ne risquent rien. L'État sait qui risque rien. On a un énorme vendeur de produits médicamenteux génériques qui s'appelle Teva, qui continue de vendre en ayant des accords avec l'Union européenne ces médicaments, alors qu'il y a bien sûr des équivalents européens fabriqués dans des pays qui respectent les droits de l'homme. Donc ça, on n'y touche pas. Donc le truc atroce. Et la deuxième conséquence, c'est que ça finance en fait directement la répression dans la bande de Gaza, entre autres, et sur les Palestiniens en particulier. Alors, je vais expliquer comment. On va parler de ces recherches dans les plans Horizon 2020 et autres, puisque à travers deux choses, à travers l'argent qu'on donne aux recherches et les achats que font les États européens, on finance la guerre et la répression dans la bande de Gaza. C'est le cas notamment des drones israéliens qui sont achetés un peu par tout le monde et qui sont d'abord expérimentés contre les Palestiniens. Du coup, ils sont meilleurs un petit peu que les autres puisqu'ils ont fait des vraies guerres. Alors, aujourd'hui, c'est un peu difficile de connaître précisément les modèles de drones et d'armes utilisés par l'armée israélienne contre les Gazaouis qui font partie soit des projets de recherche financés par les projets de recherche européens, soit qui sont achetés par l'Union européenne. C'est toujours un petit peu difficile, mais on a quand même pas mal d'idées, notamment sur certaines entreprises. Quelques exemples. Israël Aerospace Industries a participé à trois projets européens de recherche pour la sécurisation des frontières. Les projets, c'était Oparus, Aeroceptor et Talos. Tous visent à développer des drones et des systèmes automatiques de contrôle. Cette entreprise est une référence en la matière. Ils produisent notamment un drone qui s'appelle Heron, qui est équipé de missiles Spike, qui est utilisé à Gaza depuis plusieurs années pour des frappes et surtout pour de la surveillance. Il y a aussi ça s'est fait avec de l'argent européen. Cette entreprise a touché de l'argent européen. Elbit, même chose, autre grand nom de l'armement israélien, qui fait partie des bénéficiaires de projets européens et donc d'argent européen, et qui travaille notamment sur la sécurité, donc intervient directement dans et contre la vie pacifique des Palestiniens. Elbit fournit notamment des drones à l'armée israélienne, des canons à sous-munitions. Alors des canons à sous-munitions, vous savez, c'est des armes qui sont censées être interdites, se transforment en mines antipersonnelles en fait quand elles explosent et qui sont des catastrophes humanitaires qui sont dénoncées par tout le monde, qui sont censées être interdites, mais qu'Israël continue de fabriquer et d'utiliser. Voilà. Alors, les parlementaires européens, les dirigeants européens de chaque pays, ont du mal à assumer tout ça. On ne les a pas vus condamnés. Faut dire que, par exemple, pour Israël Aerospace Industries, c'est un partenaire directement de projets européens actuels, comme le projet qui s'appelle Océan 2020, qui est un projet militaire financé par l'Union européenne via les budgets de défense. Alors ça, c'est un peu l'hypocrisie actuelle, c'est que soi-disant il n'y a pas de budget de défense en Europe puisqu'on n'a pas d'armée européenne, mais en fait depuis quelques temps, c'est assez récent, l'Europe déverse et commence à déverser, ça va s'amplifier encore, des milliards d'argent public en faveur des industries de l'armement, ce qui va intervenir dans la gestion des frontières de l'Union européenne, de Frontex et de choses comme ça. Donc il y a un vrai financement de l'Europe de ces entreprises israéliennes. Alors je pourrais continuer avec plein d'exemples. On va juste rappeler aussi que les différents pays collaborent directement et financent directement la guerre. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas du Royaume-Uni, de l'Allemagne, puisque ces pays-là vendent, alors achètent des armes à Israël, mais aussi en vendent, puisque on se rappelle du gouvernement de Manuel Valls en 2016 qui avait vendu pour 169 millions de matériel militaire au gouvernement israélien. Donc il y a un vrai problème de ces ventes. Pas mal d'assauts, de structures, d'ONG, Amnesty International et plein d'autres, même des ONG israéliennes, demandent un embargo au moins sur les ventes d'armes vers Israël. Aucun dirigeant européen ne le propose. Monsieur Macron ne le propose pas. Monsieur Macron est toujours pour massacrer la population palestinienne, puisque Monsieur Macron continue d'accepter de vendre des armes israéliennes, continue d'accepter que les entreprises comme Teva fassent un énorme bénéfice en Europe, bénéfice qui va lui aussi d'ailleurs financer l'armée israélienne. Il y a un vrai problème de compromission des dirigeants européens. Alors je pourrais continuer, un dernier exemple, allez, le drone Heron, toujours de cette belle entreprise Israel Aerospace Industries, qui vient d'avoir un contrat de 4,75 millions d'euros par l'Europe pour l'agence Frontex. Voilà comment l'Europe non seulement ne condamne pas réellement, ne prend pas de sanctions, ne casse pas les accords économiques, mais en plus l'Europe finance directement l'industrie de l'armement israélien, cette industrie qui va pouvoir, avec cet argent, continuer d'assassiner les Palestiniens.
Oui, alors avec les attaques sur les droits humains, la démocratie, il y a la liberté d'expression. Je voudrais rappeler à nos auditeurs, nos auditrices que s'ils ne l'avaient pas lu, elles ne l'avaient pas lu, Reporters sans frontières a saisi la Cour pénale internationale cette semaine contre l'armée israélienne qui a tiré sur des journalistes. Il y a eu 2 morts. Du côté des journalistes palestiniens.
Oui, mais un journaliste palestinien, c'est pas un journaliste, c'est un palestinien.
Alors, ils ont blessé par balle d'autres journalistes qui n'étaient pas. Et qui ne sont pas, puisqu'ils sont encore en vie, heureusement pour eux, des journalistes palestiniens.
Alors, c'est pas la première fois. Hein.
Non, c'est pas la première fois.
Il y a eu pas mal de journalistes blessés, voire tués par. Enfin, souvent blessés par l'armée israélienne.
Alors, je vais donner leur nom. Ils s'appelaient Yasser Moutarha et Ahmed Habib Youssen, 30 ans et 27 ans, donc de jeunes journalistes photographes assassinés par l'armée israélienne avec des balles, hein, il faut des snipers, il faut bien le dire, alors que
ils sont repérés.
Des casques.
Ouais, ils ont le casque écrit presse.
Des vestes ouais. Presse. A priori, ça n'a pas suffi pour les protéger des balles hein, qui ont traversé tout ça.
Il y a un vrai choix de les
assassiner. Donc il y a un choix d'assassiner des gens qui voudraient raconter ce qui se passe à Gaza, mais aussi en Palestine d'une manière générale. Donc voilà, RESF a saisi la Cour pénale internationale. Je ne suis pas sûre que ça serve à quelque chose, mais c'était quand même bien qu'une organisation le fasse.
Tout à fait.
Alors, on va continuer avec de l'international, ça va aller assez vite, pour vous dire que donc en Catalogne, il y a un nouveau chef. Il s'appelle Quim Torra, c'est le nouveau président de la Catalogne.
Donc c'est pas Puigdemont.
Il a été élu lundi, non mais on va y revenir à Puigdemont, hein, monsieur si tu veux bien. Alors ce qui est intéressant c'est que donc aujourd'hui il y a une cérémonie qui a été extrêmement rapide pour dire ça y est bonjour tu es président, blala, on te remet un petit quelque chose et puis on te sert la paluche, vous savez hein, toutes ces cérémonies. Alors d'habitude c'est plutôt un peu Versailles. J'exagère un peu, mais vous voyez, souvent, c'est quand même, on y met les formes. Là, ça a été très, très rapide. Il faut dire que du côté de Monsieur Rajoy, du gouvernement espagnol, conservateur, je vous rappelle, il n'y avait aucun représentant. Rajoy n'a envoyé personne. Hein,
il y a un certain mépris.
Ah bah, des deux côtés, hein, il faut bien le dire quand même.
Bah, on a un mec de droite, Rajoy, qui est quand même droite dure, et en face, on a des nationalistes. C'est,
et alors, voilà, en plus, c'est pas beau, quoi. Le nouveau président est... dur indépendantiste.
Hein. Oui, c'est, un vrai nationaliste.
C'est la ligne très très dure des indépendantistes. Il ne parle pas de lutte de classe toutes les deux minutes, il faut bien le dire. Alors ce qui est intéressant, c'est que M. Thora, sans l'accent, excusez-moi, sans la bonne intonation, doit normalement faire un certain nombre de choses face à la constitution espagnole qu'il n'a pas fait. Il n'a donc pas juré fidélité à la constitution espagnole, n'a pas amené son respect au roi non plus. Bon, ça, on va plutôt le soutenir là-dessus. Il a simplement expliqué qu'il était là pour la volonté du peuple de Catalogne. Donc un discours très nationaliste et pas du tout dans le respect des fondamentaux, pour le dire comme ça, de l'Espagne. Donc ça n'a pas bien plu, hein. Par la suite, je vous rappelle qu'il y avait une tutelle directe de Madrid sur la Catalogne. Ça faisait quand même un petit moment qu'il n'y avait plus de chef. Donc c'est plutôt, malgré tout, une bonne chose qu'il y ait de retour une forme démocratique qui essaye de se remettre en place. C'est pas gagné pour que les choses se passent bien, puisque le nouveau président a dit qu'il allait poursuivre les volontés indépendantistes qui existent.
Le truc, c'est que lui, il est quand même super hypocrite, c'est qu'ils sont élus, ils ont à peine la majorité, donc ils sont, il y a la moitié, de la, grosso modo, hein, c'est moitié-moitié, quasiment à quelques pourcents près. Du coup, lui, il veut poursuivre le processus pour aller vers une indépendance, alors qu'il y a quand même une petite moitié de la population qui est contre. Donc lui, il en a rien à foutre de la démocratie. Pourtant, ils ont ce discours tout le temps, on veut faire une république, on veut respecter la démocratie. La démocratie, sur une indépendance, quand on a 51% contre 49%, ça n'a aucun sens.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce nouveau président estime que le président légitime, je le cite, c'est toujours M. Puigdemont. Donc,
c'est une marionnette, du coup.
Bah, j'espère que non, pour lui, hein, parce que quand même c'est dommage, sinon... Mais enfin, c'est marrant de déclarer ça aussi. Je vous rappelle que M. Puigdemont est toujours en Allemagne, où il attend de savoir s'il va être remis à l'Espagne ou pas. Hein. Je vous rappelle qu'il pourrait être jugé pour rébellion, hein. Il risque 30 ans de prison. Donc, bon,
ce qui est beaucoup quand même.
C'est beaucoup.
Pour avoir juste organisé un référendum quand même.
C'est quand même le bazar, l'Espagne.
C'est la honte totale.
La démocratie, tout le monde s'assoit dessus. La liberté d'expression, la liberté aujourd'hui d'avoir des opinions. Enfin, quand même, on sent que M. Rajoy est un conservateur de droite, et que il a envie de protéger quand même cette monarchie en place aussi, et puis son pouvoir aussi, on va bien dire. Alors on va partir maintenant alors ça va être très rapide, on va parler des barbares, en tout cas, d'un pays qui a envie d'être barbare. Je vais partir...
Qui n'est pas, tu veux dire,
au Kenya. Bah, en fait, vous savez, au Kenya, il y a une lutte contre le braconnage. C'est un pays qui a un tourisme avec aussi des safaris. Malheureusement, on sait que ces safaris...
Il y en a qui font de la vraie chasse, mais la majorité, c'est des safaris où on va
un
voir...
Un peu nul, quand même, il faut bien le dire, parce que les gens, ça, parfois, vont aussi déranger les animaux, il faut le rappeler, mais...
Au Kenya, comme ailleurs, il n'y a plus vraiment
d'animaux
sauvages.
On sait aussi que certains de ces safaris mènent aussi à ce que des Occidentaux, parce qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui vont aussi dans ces safaris au Kenya, d'amener un regard un peu différent, en tout cas, et des gens là-bas sur place qui essayent de faire en sorte qu'on traite les animaux différemment, que justement il n'y ait plus un tourisme de masse un peu bête pour aller voir des animaux. Bon, c'est pas si simple, hein, il faut bien le dire sur place, mais il y a une économie, et puis surtout, c'est aussi protéger la faune locale. Donc il y a une lutte contre le braconnage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous risquez par exemple une amende de $200,000, hein, sur la loi, il y a une loi sur la protection des espèces sauvages qui a été renforcée en 2013. Donc, il y a des choses en place, mais aujourd'hui, on a un État qui estime qu'il n'y a pas assez de sanctions contre les braconniers, et donc l'idée, c'est d'instaurer la peine de mort contre les braconniers. Donc, c'est-à-dire que on va aller tuer des êtres humains
parce qu'ils veulent tuer des animaux.
Oui, ou en tout cas, qui vont sinon les mutiler, qui vont souvent amener à la mort, hein, de l'animal, pour avoir par exemple des défenses. C'est ce qui se passe avec les éléphants, les rhinocéros, vous savez, à travers le monde, hein, c'est ça qu'on cherche. Et puis après, vous avez les zèbres et les girafes, où on va aller chercher de quoi se faire un joli sac et des jolies godasses. Les lions, on va aller chasser pour faire se prendre en photo après avec le pied posé sur la tronche de l'animal. Vous savez, hein, d'ailleurs en Espagne, hein, il n'y a pas quelqu'un qui s'était fait prendre en photo comme ça.
De la famille royale.
Ah, oui, des fois on a un peu du lien quand même avec les choses comme ça. Donc voilà, c'est une réaction quand même assez brutale qui scandalise un petit peu même certains et certaines protecteurs de la cause animale.
Ouais, parce que bon, la peine de mort, on rappelle, ça n'a aucune utilité.
Ça n'a aucune utilité.
Soit l'idée.
Voilà. Et alors que on sait que par contre les sanctions pécuniaires ont pour l'instant quand même réussi à faire baisser un petit peu le braconnage, et qu'on sait aussi qu'il ne s'agit pas de s'en prendre que aux braconniers, mais aussi à ceux et à celles qui achètent à travers le monde ces produits, et que c'est aussi ça une affaire pas de douaniers. Il faut bien le dire. Ensuite, le petit sujet pour te faire plaisir, très cher Laurent.
On va parler d'une bagnole.
Juste pour toi. Alors, précisément, nous allons parler salon automobile.
Ah, c'est bien le salon automobile.
Puisque à l'automne prochain, entre le 4 et le 14 octobre 2018 précisément, doit se tenir le Mondial de l'Automobile de Paris. Grand événement pour certains et certaines.
Oui, je pense que je vais y aller.
Grand route. Broum, broum, broum. Venez-moi, ma jolie voiture. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a des désistements en série. On a donc Ford, Opel, Nissan, Volvo, Mazda qui n'iront pas au salon. On attend la position de Fiat Chrysler. Et puis, si je vous en parle, c'est parce que le dernier fabricant en date à dire qu'il n'irait pas, c'est Volkswagen.
Un des deux plus gros fabricants mondiaux. Mais pourquoi ils y vont pas?
Ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut se pencher sur tous les autres salons et regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. On sait déjà, alors il faut savoir qu'à Paris, c'est tous les deux ans parce que c'est Francfort, Paris, Francfort, Paris, c'est en alternance, il y a un accord entre les salons. Et il faut se rendre compte aussi que les salons, il y en a plein aux États-Unis, il y en a maintenant des gros qui sont à Shanghai, à Pékin, en alternance aussi. Il y en avait un avant à Tokyo, qui était international et qui est devenu purement local, maintenant avec plus que des marques japonaises. Et puis, il y en a comme ça à travers le monde, hein, quand même, parce qu'il fallait vendre de la bagnole. Je vous rappelle que la bagnole, c'est quand même un des produits qui se vend bien à travers le monde. Alors, ceux de Shanghai et Pékin continuent à très bien marcher comme salon. Mais ailleurs, ça marche plus très bien. Déjà en 2016, il y avait eu des marques qui n'étaient pas venues au salon parisien. On avait à l'époque parlé de Ford, de Volvo, de Aston Martin, des Bentley, des Lamborghini.
S'il n'y a pas des Lamborghini ou des Ferrari, les gens ne vont pas y aller.
On sait qu'au salon de Genève, en mars dernier, il manquait des Opel déjà, Tesla et un certain nombre d'autres marques. On avait à Francfort en septembre dernier Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Mitsubishi, Tesla, Volvo qui n'y étaient pas allés, qui n'avaient pas de stand. Et puis on sait déjà qu'au gros salon de Détroit, qui est le salon des États-Unis d'Amérique pour la bagnole, en janvier 2019, on sait déjà qu'a priori Audi et Mercedes, BMW n'iront pas à ce salon. Alors,
Eux sont en représailles aux propos de Trump, à mon avis, et à la politique de Trump.
Il y a des raisons qui sont des raisons d'ordre politique, économique, international. Et puis on sait aussi que la voiture, ça fait moins rêver, ça fait moins fantasmer, donc on a moins les gens qui vont au salon. Il faut se souvenir aussi que le dernier salon à Paris a eu lieu à une période où des attentats, donc tout s'était cassé la gueule, mais il y avait eu beaucoup moins d'entrées. À l'époque, tout le monde avait dit c'est à cause du terrorisme, les gens ne veulent plus venir, il y a le plan Vigipirate, voilà. Et puis en faisant ce petit regard mondial, on s'aperçoit que c'est pas si simple. Il y a aussi une raison assez pratique, c'est que exposé,
ça coûte cher.
Ça coûte très très cher, et que les marques a priori en ont marre de sortir le porte-monnaie, parce que certes les salons c'est une vitrine, c'est aussi un endroit où les marques peuvent vendre. Vous pouvez acheter une voiture sur un salon de l'automobile, vous avez, c'est comme tous les salons, vous avez des possibilités de faire un bel achat, de sortir votre petit porte-monnaie, votre chéquier, votre carte bancaire, votre système de paiement que vous utilisez. À mon avis, si vous arrivez avec la valise de monnaie, de billets, je ne suis pas sûr que ça passe très très bien, vous pouvez toujours espérer qu'on vous prenne quand même votre pognon. Après tout, du pognon c'est du pognon pour les capitalistes, mais a priori les stands coûtent beaucoup trop cher et certaines marques ne s'y retrouvent pas. Et puis chez Volkswagen, il y a évidemment le fait que c'est une marque qui a eu un petit peu quelques soucis dans les médias ces derniers temps pour avoir manipulé des tests sur la pollution, donc c'est une marque qui va pas très très bien en termes d'audience. Donc on aurait pu dire justement qu'un salon c'était là pour redorer le blason. Alors Volkswagen a dit non, a priori c'est pas rentable d'aller sur un tel salon, mais c'est pas si simple que ça, parce que il va y avoir quand même une présence sous d'autres forme, c'est-à-dire que parallèlement à ce salon, Volkswagen va quand même avoir quelques actions sur 2018. Il va y avoir des essais, par exemple à Paris, dans d'autres endroits, et puis il pourrait y avoir d'autres dispositifs qui feraient apparaître quand même le groupe Volkswagen. Mais l'idée pour Volkswagen, comme pour d'autres marques dont je vous ai cité tout à l'heure, Ford, Opel par exemple, ou Nissan, c'est de ne plus avoir de stand, de ne plus payer pour avoir un stand. Ça, c'est fini. Alors, ce qu'on sait, c'est que les autres marques de Volkswagen, Audi, Skoda, Seat et Porsche, seront quand même présents au marché mondial de l'automobile de Paris avec cette propre marque. Hein, parce qu'on vous rappelle que c'est des multinationales multimarques. Hein, y a eu des rachats, des concentrations. Donc aujourd'hui, Volkswagen, c'est tout plein de marques. C'est plus juste la Polo. C'est plein d'autres bagnoles avec d'autres marques, bien évidemment. Ce qui, fait marrer un petit peu. Enfin, moi, ça m'a fait marrer parce que... on va avoir beaucoup de propos sur les nationalistes ce soir, d'une manière détournée, c'est que y en a qui font la moue un peu sur ce qui va se passer à Paris, c'est que qui va être là en masse, les constructeurs chinois. Qui s'éclatent parce qu'eux, ils ont du pognon, et comme ils en sont encore au début de leur apparition médiatique, sont présents sur tous les salons, ces constructeurs. Donc ça fait grincer les dents les nationalistes français qui ne comprennent pas pourquoi c'est pas les marques françaises qui sont mises en avant à Paris, alors que les Chinois, ils arrivent avec leur pognon, leur valise de billets justement, et puis s'installent à Détroit, à Paris, à Francfort, de partout pour nous vendre leurs voitures. Mais moi, ça me fait plaisir quand même que les salons se cassent la gueule, parce que c'était quand même le lieu du fantasme dont je vous disais tout à l'heure. Il y a eu des enquêtes par des sociologues très intéressantes sur la voiture, et selon les pays en Europe par exemple, il fallait avoir une plutôt belle voiture, grosse voiture, quitte à se ruiner pour paraître y avoir les cheveux au vent dans son cabriolet. Aujourd'hui, il y a quand même moins ça. On est dans le côté peut-être un peu plus pratique, même si ça n'empêche pas que les gens continuent à acheter beaucoup de voitures en oubliant qu'il y a des problèmes de pollution, entre autres, ou même parce que c'est moche et que ça prend tout l'espace public, moi je trouve personnellement. Plutôt d'avoir des arbres et des bancs, on a des bagnoles garées, je sais pas, moi je trouve ça nul. Au lieu d'avoir des parkings à vélo, on a encore des voitures. Donc c'est plutôt une bonne chose finalement, parce que ça veut dire que, en plus de ça, ces salons font moins d'entrées globalement dans le monde, à part en Chine, et que donc c'est peut-être aussi un symptôme que l'air du paraître avec sa bagnole peut-être en train de tomber un petit peu. En tout cas, moi, je l'espère.
Malheureusement, ça ne change rien en termes de vente, parce que ça reste toujours un produit très répandu et la principale cause de pollution et donc de mort.
Oui,
on en parlera tout à l'heure.
Mais ça reste un problème éternel, c'est que les gens sont prêts à avoir des grands discours avec leurs enfants. Je vais le faire manger bio d'un seul coup. C'est vrai que le bio, par exemple, ça arrive beaucoup dans les familles quand les gens ont des enfants. Mais alors, par contre, arriver à leur faire entendre que leur enfant va devenir asthmatique à cause de leur bagnole, ça, c'est très compliqué. Alors après, on me dit, mais regarde-moi, ma voiture, elle est électrique. Oui,
il en a quasiment pas.
Déjà, il n'y en a pas. Reste qu'après, elle va être au nucléaire. Donc pour l'instant.
Oui, mais le nucléaire, c'est sympa parce que la pollution, elle n'est pas chez nous, elle est loin. Elle sera à Bure, elle sera à d'autres endroits.
Mais il reste que ta voiture, elle reste un problème parce que pour l'instant, elle est encore nucléaire. Et même que si elle n'y est pas parce que tu as trouvé une énergie électrique alternative, ta voiture, il y a toutes les chances qu'elle puisse écraser l'enfant de quelqu'un d'autre parce que ça reste un engin de mort. Il y a beaucoup d'accidents quand même et de morts dus à cause de la bagnole. En France, c'est quand même très important. Je me souviens plus du chiffre.
C'est entre 3 et 4 000.
C'est ça, je me disais bien que tu l'avais. Donc ça reste important. Il y a beaucoup d'accidents. Et puis, que, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je trouve que dans l'espace public, dans la ville, on aurait beaucoup à gagner à virer les parkings en surface.
Ah bah oui.
Pour restaurer un plaisir de la marche, du vélo, du déplacement, seul ou en famille, justement. Et qu'on y gagnerait beaucoup aussi à récupérer cet espace public. Qui prend de la place.
Il y a une ville du nord de l'Europe qui vient de décider de bannir les voitures, et donc à la place ils vont effectivement planter des arbres.
C'est ça, moi je trouve ça génial. Et par exemple, je vais vous donner un exemple, sur le quartier de la radio, sur les pentes de la Croix-Rousse, il y a un parking dans un immeuble. Vous imaginez, c'est un des quartiers les plus minéraux d'Europe, où les logements sont tassés, on a du béton et tout, et qu'est-ce qu'on fait? On fait un parking dans un immeuble. À l'époque, je me souviens de quelques coquins et coquines qui avait été un petit peu tenté de salir la devanture pendant les travaux, ce qui avait mené des discussions avec les ouvriers très sympathiques. Il y avait des tas de choses qui avaient été faites contre l'installation de ce parking. Il est là, rien n'avait été fait non plus de violent et de virulent contre cette installation. Les personnes qui étaient intervenues n'étaient pas de dangereux black blockers voulant tout casser. Je te vois faire la moue. C'est vrai que certains écolos sont vite...
Ils ont raison.
Emporté dans certains actes. Il y avait eu quelques idées de sabotage, de bloquer un petit peu des trucs et tout, mais enfin, le parking existe et c'est quand même assez scandaleux d'avoir ce parking-là à hauteur de fenêtres, enfin des voisins. Mmh. Voilà, moi je trouve ça absolument complètement dingue.
C'est un immeuble qui aurait pu servir d'habitation.
Exactement. Et puis on rappellera que à Lyon, les parkings payants sont gérés par des entreprises privées. Enfin bon, c'est tout un système aussi économique qu'on peut aussi dénoncer par ailleurs. Alors, une dernière info écho qui moi m'a fait bien planer. Alors donc vous le savez, il y avait du football hier à Lyon. Il paraît que moi j'ai lu la presse, même le Monde.fr.
Alors il n'y a pas du foot à Lyon, Delphine. C'était à Décines.
Oui.
Ah oui, non, mais c'est un bel
bilan. C'est vrai.
Il se passe un truc dans la bande de Gaza, on ne dit pas que ça se passe en Arabie Saoudite ou au Caire.
Alors oui, mais c'est parce que je vais continuer. Il paraît donc que dans notre métropole lyonnaise, dans notre coin de France, on avait de la chance d'accueillir un match de cette envergure. Je l'ai lu dans un article du Monde.fr, je vous jure. Comme quoi, hein, tout arrive quand même dans la presse française. Tous les Lyonnais, les Lyonnaises étaient tournés vers le match. Moi pas, mais encore une fois, c'est comme quand on dit tous les Français et les Françaises pensent bleu, alors qu'en fait, bon, y en a qui pensent rouge, mais ça, c'est toujours un problème.
Personne n'a interrogé tous les Français, donc c'est vraiment du mensonge.
Et donc, il a fallu hier quand même subir. Et puis jusqu'à ce matin, hein, quand même. Encore heureusement, ils ont perdu les Marseillais, ce qui nous a amené quand même un petit peu en repos. Finalement, la presse est passée à autre chose. Ouais. Les médias, d'une manière générale, sont passés à autre chose. Mais il y avait aussi hier beaucoup dans la presse et les médias de savoir si les supporters lyonnais allaient être pour Madrid ou pour Marseille. Et donc, c'est là qu'on apprend que les supporters sont vraiment des gens régionalistes et nationalistes.
Pas tous. On imagine que pas tous les supporters avaient ces propos.
Arrête de vouloir défendre des supporters
fascistes,
de foot.
Parce que c'était impressionnant, là.
Mais là, c'est quand même l'idée, c'était que beaucoup de supporters des clubs, on va être très précis, c'est-à-dire de ceux qui sont aussi inscrits, adhérents dans des clubs, préfèrent supporter Madrid que Marseille, parce que quand même, Marseille, on les aime pas, alors on va supporter les autres. Comme quoi, on arrive à la bêtise humaine, tu vois. Moi, ça me dépasse, hein. Je sais pas vous, là, qui nous écoutez, ce que vous en pensez.
Ils supportent pas une équipe parce qu'elle est meilleure, ils supportent une équipe pour des raisons fascistes, nationalistes.
Bah oui, pour pas supporter les autres. C'est quand même,
Pour rejet de l'autre.
Alors, il paraît qu'il y a eu des dégradations. L'OL a porté plainte parce qu'il y a eu des dégradations dans le quartier sud où ils étaient stockés les Marseillais. Ah bah oui, parce qu'on les avait stockés quand même, parqués. Donc ils ont paraît casser des fauteuils, tout ça, que ça coûte cher. Et puis qu'il paraît que ils avaient mis des autocollants qui étaient insultants pour l'Olympique Lyonnais.
Ouais, bah comme il y avait les mêmes de l'autre côté, c'est pas très grave.
Je me suis dit quand même, voilà. Mais donc bon, évidemment, dans ces cas-là, ça nous fait nous toujours marrer. Alors, ce qui nous a fait, moi, ce qui m'a fait beaucoup marrer, c'est cette affaire qui touche Jean-Christophe Serfati, Monsieur Serfati. C'est le PDG de la Provence, hein, Provence qui a Monsieur Tapie. Vous faites le lien, clac, 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 clac. Et alors, il a donc proposé sa démission, qui doit encore être acceptée hein, par le conseil d'administration, mais il y a de fortes chances qu'elle le soit, ça d'être acceptée, sa démission. Qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur Jean-Christophe Serfati?
Eh ben, il a vendu des faux billets.
Il a fait acheter par la régie du quotidien des places pour assister hier au match. Sauf qu'il est passé par une agence non agréée par l'UEFA. Et il y a des règles hein, dans le capitalisme du foot. Il faut que le vendeur soit officiellement agréé par l'UEFA, ce qui n'était pas le cas. Donc il y a eu des billets, 120. Il y en a une partie, la moitié, qui n'ont pas pu rentrer au stade parce que leur billet n'était pas valable.
Donc les mecs qui sont venus de Marseille avec des billets, les personnes avec des achetés, et ils n'ont pas pu rentrer parce que la Provence les avait arnaqués. C'est pas mal quand même.
Oui, c'est marrant. Donc face à l'affaire, Monsieur Serfati a décidé qu'il fallait mieux démissionner. On avait déjà appris avec le canard enchaîné de cette semaine que il y avait eu des opérations absolument interdites hein, par l'UEFA, c'est-à-dire que il y avait eu un pack. Avec, pour les annonceurs, tu prends des places et puis pour cette finale à Tessines. Et puis avec ça, on te file des encarts publicitaires. Vous voyez, il y avait une espèce de truc entre 6 900 € et 30 000 € quand même. Hein, voilà. Donc c'est absolument interdit puisque ça, on ne peut pas faire des packs pour l'UEFA. Tu vends une place, point final. Tu n'as pas le droit de faire de l'associer à autre chose. Il n'y a que l'UEFA qui a le droit de faire en fait, du pognon avec ce genre de pack promotionnel. Donc. Ça s'est fait taper quand même pas mal sur les doigts. Voilà, c'est un peu raté hein, pour Monsieur Serfati qui va certainement devoir se trouver un autre boulot.
Oui, bon, enfin, on ne s'inquiète pas pour lui.
Non, on s'en fout un peu, mais ça nous a fait marrer. Allez, on va parler un peu énergie, environnement.
Non, on va parler de spectacle.
On va parler spectacle. Alors, nous sommes allés, nous, On n'était pas devant le match hier.
Ouais, pas du tout.
Ni un dessine, ni devant une télé. Nous étions au théâtre et particulièrement, nous étions au théâtre de la Croix-Rousse pour aller voir le dernier rendez-vous de la compagnie La Cordonnerie avec un spectacle qui s'appelle Dans la peau de Don Quichotte. Alors, ça devient plus une tradition hein, maintenant avec la Cordo.
Une c'est fois que, par an. Ouais.
Quand la Cordonnerie donne un spectacle au théâtre de la Croix-Rousse, parce que ça fait plusieurs années que ces rendez-vous durent, et ben, on vous chronique un peu ça, on vous rappelle aussi. Pourquoi ? C'est parce que bah, c'est des amis.
On les connaît depuis la création de la Cordonnerie, donc il y a 21 ans.
Et que c'est exactement. Des gens du quartier des Pentes de la Croix-Rousse, c'est aussi pour ça qu'on les soutient.
Et un ancien de Radio Canu.
Et c'est surtout aussi pour ça que nous avons toute notre amitié dans cette affaire.
Non mais alors, en fait, c'est pas pour ça.
Non, c'est parce qu'on adore.
Voilà, c'est parce que c'est génial ce qu'ils font. D'année en année, le principe c'est toujours le même. Ils tournent un film muet. Et ensuite, le film est projeté sur un écran pendant le spectacle et il y a des musiciens qui font la musique en direct. Il y a des doublages, des fois, qui sont faits en
comédiens.
Direct. Ça, c'est récent. Avant, il n'y avait pas de doublage voix.
Mais maintenant,
il y a des doublages voix.
Il y a des comédiens, comédiennes qui sont sur scène et qui vont faire les voix du film et les bruitages sonores.
Et surtout
sonores.
Les bruitages. Voilà.
Donc, ce qu'on aime, évidemment, on vous l'a déjà raconté l'année dernière, c'est que l'idée, ce n'est pas d'avoir l'objet qui est à l'écran sur scène pour faire le bruit, c'est d'avoir des objets qui sont absolument décalés.
Oui, parce que alors.
Pour faire le bruit, ça peut être tout plein d'un grippin, oui,
chaque
un
fois
jouet
chaque
qui
fois
va
qu'on
faire
a un
le bruit.
C'est, par exemple, quand il pédale à vélo dans ce film, parce que Don Quichotte et Sancho Panza pédalent à vélo à un moment, eh ben, on ne prend pas un vélo pour faire le bruit. Non, on prend un moulinet de canne à pêche. Parce qu'effectivement, en fait, ça fait les mêmes bruits, ça marche très très bien, et chaque fois, c'est comme ça, les bruitages sont absolument
alors,
décalés.
Alors, on va vous raconter l'histoire, parce que ce qui est intéressant truc, aussi ouais. avec la Cordonnerie, c'est que la Cordonnerie reprend des grands classiques dans les personnages.
Maintenant, ouais. ouais.
L'année dernière, vous avez parlé de
Blanche-Neige.
De Blanche-Neige, de Hansel et Gretel. Ouais. On a eu Barbe Bleue et Frankenstein d'une manière un peu plus éloignée.
Transposé dans une autre époque, mais plutôt récente. Blanche-Neige, c'était les années 80, la chute
oui,
du mur.
Oui, c'est l'ère contemporaine. Hein, voilà, oui. C'est des choses que nous avons connues, mais que la Cordonnerie a vécu. Hein. C'est aussi leur propre rappel. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours du vintage, mais on n'est pas dans le vintage branchouille. On est dans ce qu'on a tous et toutes pu connaître selon notre âge. Et c'est souvent... ça nous fait sourire aussi de voir ce côté un peu vintage à l'écran. Donc là, on a Michel, bibliothécaire, dans une ville dont on a tous oublié le nom.
Et la bibliothèque s'appelle François Mitterrand, par
voilà,
contre.
Voilà, ça c'est très drôle.
On est en 1999, au passage de l'an 2000.
Puisque, juste avant le bug.
Voilà, parce que c'est le bug de l'an 2000 qui va faire bugger, en fait, ce bibliothécaire.
Et Michel, donc, a décidé de faire des listes, en fait, de parler des livres qu'il y a dans sa bibliothèque. Donc, il est dans cette espèce de travail rebombatif, hein, finalement. Il y va, il enquille, il souligne, je crois qu'il a fait un ouvrage.
Et ils rentrent ça dans un ordinateur, c'est la numérisation, le début de la numérisation.
Donc c'est très très drôle parce que bon, ça nous rappelle forcément des souvenirs en termes sonores et d'images. Et Michel va tomber sur Don Quichotte. Et là, dans sa tête, il bascule.
Il devient Don Quichotte.
Et au niveau scénique, c'est absolument magnifique parce que nous avons donc deux comédiens, deux musiciens sur scène. Alors vas-y, tu peux nous rappeler les comédiens, peut-être.
Tu veux dire Samuel Hercule et Philippe Vincenot?
Et Mathilde, des comédiens.
Et Mathilde Veillargans
voilà.
aussi.
Et puis, voilà. Les trois comédiens, oui, pardon.
Philippe Vincenot, qui fait pas partie de la compagnie, mais qui est dans presque tous les films hein, de la Cordo.
Et c'est lui qui joue Michel. Mathilde et Sam font
alors,
les
Mathilde,
voix.
Ouais, font les voix. Et
les bruits sonores.
Voilà. Et Mathilde a un petit rôle de. Enfin, petit rôle. Elle apparaît dans le film en.
Mais ça, c'est toujours un petit peu. Hein, voilà. Ils ont aussi ces doubles emplois entre la scène, l'image, qui n'est pas forcément un miroir, mais qui leur font jouer des tas de personnages. Samuel joue tout un tas de personnages avec des voix différentes. C'est vraiment très très beau, c'est vraiment très chouette. À chaque fois, on se plonge dans le film, on peut presque les oublier un moment qui sont sur scène, et puis on y revient parce qu'ils sont là, parce qu'on les regarde, parce qu'on les entend, et puis parce qu'il y a aussi ces deux musiciens absolument fabuleux qui sont là pour accompagner. Il y a une mise en scène qui est vraiment très chouette quand ils sont sur ces deux vélos d'appartement au milieu de la scène, alors qu'à l'écran, ils sont donc Quichotte et Sancho en train de pédaler sur leur vélo, donc il y a un double emploi, et donc Michel évidemment a pété un câble, et donc il se prend pour Don Quichotte accompagné de son fidèle partenaire, qui est en fait son collègue
de boulot,
de bibliothèque.
Qui fait le ménage, là.
Et qui va l'accompagner dans la vraie vie, mais qui il va être donc à la recherche. Hein. Mais c'est exactement Don Quichotte, revu.
Oui, parce que c'est exactement le même truc. Mais alors là, ce qui est très très fort avec La Corneau, c'est la première fois qu'ils font ça, c'est que d'habitude, le film, c'est une sorte de truc un peu extérieur. Et le film est projeté, et ils font les bruitages, tout ça dessus. Il y a une certaine distance. Là, au début, c'est comme ça. On a un petit écran, et on a la petite distance où on voit ce bibliothécaire et tout. Et à un moment, il y a un point de bascule, ce qu'ils n'avaient jamais fait, et ce qui est incroyablement et original et très très bien fait, c'est que le petit écran il disparaît et on a un écran immense, mais c'est plus la réalité. L'écran immense devient ce qui se passe dans la tête du bibliothécaire, de Michel, qui se prend pour Don Quichotte, qui pète un câble au passage de l'an 2000, là au moment où son ordi bug ou tout bug, et voilà. Et du coup, lui, il apparaît sur scène alors qu'avant il n'y était pas, celui qui va jouer Don Quichotte et le bibliothécaire. Et là, on a pas mal de parties en vue subjective à travers les yeux de Don Quichotte.
Et son casque. Et son casque. Très chouette, c'est très bien fait.
Et enfin, c'est absolument génial. Et puis
c'est aussi génial, quoi. Ça parle d'utopie. On est sur Don Quichotte, hein, donc on a cette utopie. Mais il y a aussi.
Ils ont intégré plein de slogans de mai 68 dedans.
Il y a aussi ce rapport à la précarité, la pauvreté, parce qu'on y rencontre aussi ce chevalier errant.
Qui veut faire le bien, en fait.
Qui se transforme un peu quand même en SDF.
À la baille, complètement, voilà, même.
Avec son truc à barbe sur la tronche. Hein, on ne veut pas tout vous dévoiler.
Qui termine en asile psy, du coup.
Mais voilà, on ne vous racontera pas fin, parce qu'on vous incite vraiment à aller au théâtre de la Croix-Rousse. Ça joue jusqu'à samedi. Hein, je suis sûr qu'il reste encore de la place. Essayez. Poussez les portes, allez voir. On vous en parle chaque année. Donc, je ne sais pas, acheter les places pour l'année prochaine. Hein, il y aura bientôt une présentation de saison. Je crois que c'est le 22 et le 23 mai au théâtre de la Croix-Rousse. Peut-être qu'on aura une nouvelle présentation.
Ou ça jouera ailleurs, au théâtre de la Renaissance à Oulin ou ailleurs. Parce qu'ils ont pas mal joué à Vénissieux, ils jouent un peu dans les théâtres de Lyon.
Ils ont eu une belle résidence à Vénissieux, effectivement, au début des années 2000. Donc voilà, c'est un très très beau spectacle. Moi, ce que j'aime toujours beaucoup, c'est d'avoir des comédiens, comédiennes sur scène qui ne sont pas là juste pour doubler un film, mais qui sont en jeu.
Qui jouent.
Sont en jeu, qui ont toute cette émotion. Je trouve que c'est un spectacle avec, comme souvent avec La Cordonnerie, hein, où on sourit beaucoup, on rigole, mais il y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans ce spectacle. On est très touché par Michel Don Quichotte. Il est très tendre. On a envie qu'il lui arrive du bien à Michel. On a envie que ça se passe bien. Et je trouve que La Cordonnerie arrive avec le même principe film, bruitage extérieur, à toujours se renouveler dans leurs propositions artistiques et à toujours nous donner envie de revenir. Et moi, je trouve ça absolument fabuleux pour une compagnie d'arriver à avoir une image très précise de leur travail et en même temps arriver à se renouveler dans la même idée. Je trouve ça très chouette. Voilà.
Et n'oublions pas une part importante aussi du spectacle, la musique, puisque on a toujours, depuis le début de La Cordonnerie, Timothée Joly, qui est pianiste, qui joue un peu du ukulélé là. Et là, il est accompagné sur ce spectacle de Mathieu Augier, qui va faire guitare, batterie, puis différents instruments et bruitages aussi. Et la musique est chaque fois composée par ces musiciens-là. Hein. Timothée, c'est quelqu'un d'assez incroyable. Et d'ailleurs, là, il a un piano droit sur lequel il a collé de la pâte à fixe sur la moitié du piano, ce qui fait que les notes graves, par exemple, elles ont un son ultra particulier. Il y a de la création partout, en fait, hein, dans un spectacle de La Cordonnerie et dans la musique aussi. Donc voilà, si vous avez jamais vu de spectacle de La Cordonnerie, il y a les autres qui tournent encore, hein, puisque c'est pas toujours Mathilde et Sam qui jouent. Il y a une sorte de deuxième équipe qui fait tourner des anciens spectacles. Et si vous avez l'occasion de le voir, c'est vraiment une expérience. Hier, on a assisté à un truc que moi, j'assiste jamais. C'est à la fin.
Oui, alors, au théâtre de la Croix-Rousse, le mercredi, il y a des bords de scène. Ça permet de voir quelques discussions avec les comédiens, metteurs en scène.
Voilà. Des questions souvent ultra banales, etc. Mais ce qu'on découvre, c'est qu'il y a des gens qui venaient pour la première fois et qui. Ah, parce que nous, le principe, on le connaît depuis. Ça doit faire presque 20 ans qu'il y a ce principe-là. Il y a des questions un peu. Mais ils sont éberlués de ce qui se passe, en fait. Donc, nous, on n'est plus éberlués. On est juste à chaque fois éberlués par la créativité, mais pas par le principe. Du coup, c'était assez marrant de voir ces réactions un peu de découverte, quoi.
Et puis on s'aperçoit aussi que c'est une équipe qui a une très belle culture de la littérature, et ça aussi c'est très intéressant, et d'arriver à écrire à chaque fois un spectacle, parce que là c'est une réécriture, hein, c'est pas juste prendre Don Quichotte,
pas le texte de Don Quichotte,
c'est pas une adaptation comme ça légère, c'est une réécriture complète pour un spectacle totalement nouveau, totalement contemporain, et en même temps avec toute la culture de la littérature, et ça c'est vraiment très chouette. On l'avait déjà avec Blanche-Neige sur le conte, et je trouve ça vraiment bien d'avoir une compagnie qui ait cette capacité-là. Moi je suis ébahie quand même dans cette réécriture. Il y a une vraie force de l'écrit, vraiment c'est très très beau quoi. Et Philippe Vincenot est absolument fantastique.
Ah, mais c'est un gars exceptionnel.
Il est fantastique. Il est très très beau.
Au tout début de la première question.
Sachez-le, il est très beau.
Ah ouais. Et puis au tout début de la première question sur comment ils ont créé le spectacle, les deux créateurs n'étaient pas là et lui il a répondu. Il a une culture littéraire et théâtrale qui fait passer. C'est une merveille.
Avec une façon pédagogique d'expliquer tout ça.
C'est quelqu'un de phénoménal. Pour avoir passé des heures à discuter avec lui quand j'ai participé au tournage de la Cordeau, c'est vraiment du bonheur absolu. Donc si vous avez jamais vu, il reste deux jours pour Dans la peau de Don Quichotte et guetter les autres spectacles. Voilà, on est fan, mais pas parce que c'est des copains, c'est parce que c'est vraiment génial.
Non, parce que si on était juste là pour les copains, on vous dirait pas que c'est des copains et des copines.
Voilà. Exactement. Et puis si c'était pas des copains, on aurait le même
enthousiasme. En fait, comme on l'aura dit hier, on attend d'avoir un spectacle qu'on aime pas pour pouvoir chroniquer et dire cette année c'était de la merde. C'est pas le cas.
Non. Voilà. On poursuit puisqu'il nous reste encore 10 minutes avec quelques petites infos. On va parler d'énergie et environnement, la trahison perpétuelle de monsieur Hulot et de monsieur Macron qui sont des menteurs, des traîtres, et vous les appelez comme vous voulez. Et sur l'environnement, tout particulièrement, puisque ça y est, c'est officiel depuis hier, la bioraffinerie de Total à la Med, c'est dans les Bouches-du-Rhône, est autorisée, puisque la préfecture avec l'assentiment de M. Hulot, de M. Macron et toute la clique, autorisé cette bioraffinerie. Alors ça nous fait marrer, parce que c'est pas biologique en fait, on va vous expliquer. C'est une raffinerie qui va fabriquer 500 000 tonnes de biodiesel. C'est du diesel. Donc diesel, c'est de la merde. Hein. Un carburant qui brûle très très mal dans les moteurs, qui émet beaucoup de particules. C'est l'essentiel hein, des particules émises en ville qui est issu de ces diesels, notamment dans les périodes actuelles où on a de la pollution. C'est les diesels qui sont responsables de l'essentiel des particules. Et même quand c'est fabriqué à partir d'huile de palme, puisque c'est le problème, ou de colza, ou de je ne sais qu'autre élément qui au départ est naturel. Donc le problème d'avoir autorisé cette bioraffinerie pour fabriquer ce biodiesel, c'est que Total va pouvoir et va devoir importer des milliers de tonnes d'huile de palme. Et oui, c'est beau. L'huile de palme, c'est magique. C'est pas simplement une huile mauvaise qui se retrouve dans des produits industriels. C'est aussi, et c'est bien plus utilisé pour les biocarburants. Alors, il faut savoir que dans les carburants actuels, il y a toujours une petite dose de biocarburant. Ça, c'était une idée et une loi européenne il y a quelques années, où des imbéciles qui n'avaient jamais fait d'études scientifiques pensaient que de mettre un peu de biocarburant dans du diesel ou dans de l'essence, c'était bon pour l'environnement. Alors, on sait depuis le début que les essences dites vertes étaient au départ, alors sur la première génération, bien plus mauvaises. Aujourd'hui, elles sont aussi mauvaises que le diesel normal. Donc ça sert à rien de fabriquer ces biocarburants, c'est pas une alternative à la pollution automobile et à l'utilisation des ressources naturelles. Bien évidemment, surtout que pour avoir ces biocarburants, il faut prendre de l'espace sur soit des cultures vivrières, soit pour le cas de l'huile de palme, des forêts. Et donc c'est cette huile de palme, il y a eu pas mal d'études dessus hein, qu'on démontrait que c'était forcément lié à de la déforestation, ce qu'est le cas en Malaisie, hein, puisqu'elle vient beaucoup de Malaisie, cette huile de palme. Donc voilà, la déforestation étant elle-même responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Le fait d'enlever de l'arbre, on a moins de CO2, et puis on coupe, on brûle, en fait, voilà tout ça. Voilà. Donc c'est l'huile de palme, hein, c'est un produit vraiment miracle pour l'industrie. C'est pas cher, c'est facile à transformer. Ça plaît à Monsieur Hulot, ça plaît à Monsieur Total, ça plaît finalement aux industriels de l'agroalimentaire, ça plaît à tout le monde. C'est pas local, mais on s'en fout. Ça déforeste, mais on s'en fout. Donc voilà où on en est. Alors ce site industriel des Bouches-du-Rhône va faire progresser de 64% les importations d'huile de palme en France. C'est pas mal quand même. Hein, grâce à eux, à une seule entreprise, 64%. Il faut dire que l'huile de palme, c'est 450 000 tonnes par an qui devraient venir pour l'huile, et je crois que c'est à peu près 100 000 pour la partie alimentaire. Donc on voit bien que pour fabriquer de l'essence, on en consomme beaucoup plus. Donc c'est vraiment très très important, et c'est une très mauvaise idée. Du coup, Total va devenir le premier importateur français d'huile de palme. C'est, voilà, c'est plus l'agroalimentaire avec cette mise en route de cette raffinerie dite bio-raffinerie. Alors, bien sûr, il y a eu des questions posées à Nicolas Hulot hier. Alors, il a répondu, et j'adore l'hypocrisie, le mensonge, la perfidie de certains hommes politiques. Il a dit, c'était dans la matinale de BFM et de RMC, pour citer la source des médias capitalistes qui l'ont interviewé. Il a dit, j'ai eu le PDG de Total, donc c'est Patrick Pouyanné, et j'ai demandé donc de réduire au maximum l'utilisation de l'huile de palme, et d'essayer année après année de réduire cette utilisation d'huile de palme, et d'augmenter l'utilisation d'huile usagée. Voilà. Je ne peux pas leur demander, alors qu'ils ont fait ces efforts et ces investissements, de renoncer. C'est beau, hein. Donc il plaide, ils ont mis de l'argent dedans, et ils vont la faire marcher, leur bioraffinerie. Et après, il dit, on ne peut pas tout avoir du jour au lendemain. Alors c'est intéressant ça, parce que du jour au lendemain, mais nous faire croire qu'on a décidé hier d'un truc et qu'on a découvert les conséquences aujourd'hui et que demain faut arrêter et que ça se fait en 3 jours, c'est un pur mensonge de la part de Monsieur Hulot. L'huile de palme, ça fait au moins 10 ans qu'on en parle. Les biocarburants, ça fait 15 ans qu'on dit que c'est pourri. L'industrie automobile, avec le moteur à explosion, ça fait 50 ans qu'on dit que c'est vraiment ultra pourri. Donc on ne peut pas dire que c'est du jour au lendemain. Hein, voilà, les décisions auraient dû être prises il y a 15 ans. Donc c'est pas du tout du jour au lendemain. Les industriels, depuis les 50 ans, on va dire, alors le moteur à explosion, ça a plus de 50 ans, bien évidemment. Mais quand on a commencé à sensibiliser les populations sur la pollution, ça a au moins 50 ans, on va dire. Tout le monde aurait eu le temps de réagir. Donc arrêtons cette excuse du jour au lendemain là, parce que c'est juste un énorme mensonge. Donc voilà. Alors ce qui est drôle, c'est que l'Union européenne, ou drôle ou pas, va normalement interdire l'huile de palme dans les carburants. Donc on va ouvrir ils vont ouvrir cette raffinerie, et dans 3 ans, l'huile de palme sera interdite au niveau de l'Union européenne. Alors pourquoi ils font ça? Tout simplement pour plaire à un industriel, à un capitaliste ami, j'imagine, de Macron, de Hulot et des autres, puisqu'il n'y a aucune raison écologique, et les raisons économiques ne nous concernent pas. S'ils investissent dans un truc qui est mauvais pour l'environnement, qui va tuer des gens, il faut arrêter. Hein, donc voilà, tuer des gens, je redonnerai le chiffre tout à l'heure, hein, c'est important, la pollution liée à l'automobile. Voilà. Donc, alors, en ce moment, il y a une négociation quand même autour de cette directive sur l'huile de palme, notamment. Le prochain round était prévu aujourd'hui, alors je ne sais pas ce qui s'est discuté. Il y a grosse bataille entre la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, ça fait 3, c'est en tripartite, hein, ça se bataille sur ce qu'on va faire, si on interdit, si on n'interdit pas, etc. Alors pourquoi, on va quand même donner la vraie raison du fait que Nicolas Hulot et M. Macron autorisent cette aberration écologique. Bon, on la connaît, la raison, c'est que la France est en train de négocier la vente d'avions de combat, des Rafales, avec la Malaisie, qui est le premier producteur mondial d'huile de palme. Donc voilà, la raison, elle y est, pour vendre des armes qui vont tuer des gens. Non, parce qu'une arme, ça sert à tuer, on détruit la planète ici et ailleurs. C'est la politique mise en œuvre par M. Hulot et M. Macron. Voilà. J'espère que vous n'avez pas voté pour eux, sinon j'ai honte pour vous. Et puis on va rester dans la pollution.
Moi, j'avais juste une remarque. Tu as dit que M. Hulot était un traître, mais il n'est un traître que si on avait cru qu'il allait pouvoir faire quelque chose.
Moi, j'ai jamais cru.
Voilà. C'était juste pour qu'on soit bien d'accord.
En tout cas, c'est un hypocrite et un menteur, hein, puisqu'il se prétend
perfide de
écolo,
tuer.
Perfide, mais c'est vrai. Écolo est ministre de l'écologie et il fait tout pour détruire l'environnement. Hein, le glyphosate est toujours pas interdit, on le rappelle, mais il y a plein d'autres sujets auxquels il a trahi du début jusqu'à la fin son ministère. Oui, un petit mot sur la pollution de l'air, ce sera la dernière info de cette émission. puisque la France va peut-être se choper une amende, ça m'étonnerait quand même, mais il y a une belle menace, c'est une menace qui plane depuis au moins 10 ans sur la France, au niveau de l'Europe, puisque la France ne respecte pas la directive européenne sur la qualité de l'air, et notamment certaines régions comme la région lyonnaise, et on est en train de se faire taper sur les doigts. L'Europe a décidé de renvoyer la France devant la Cour de justice européenne. Il y a un risque d'amende relativement importante. Ça peut aller jusqu'à 11 millions d'euros, des astreintes journalières à hauteur de 240 000 euros par jour. Il faut savoir que la pollution, elle est constatée sur la pollution de l'air. Alors, dans la région Rhône-Alpes, il y a trois endroits particulièrement pollués. Lyon, Grenoble et bien sûr la vallée de l'Arve, c'est l'entrée du tunnel du Mont-Blanc vers Chamonix où ils respirent essentiellement la pollution des camions et puis un peu des voitures, mais des camions au niveau impact, il est plus fort sur les camions, il y en a plus, ils sont plus gros, ils polluent plus. Et ce que l'Union Européenne dit, mais vous faites quoi? Alors, il y a des micro-mesures qui sont mises en place. Alors, Grenoble a mis des mini-mesures, on va dire. C'est-à-dire qu'en cas d'alerte pollution, etc., il y a des restrictions de circulation qui vont avoir lieu. À Lyon, jamais. Pour l'instant, on n'a jamais basculé dans les restrictions, et puis les restrictions sont minimes. On rappelle que des mesures de base, comme rendre les transports gratuits, ça, il n'en est pas question. Monsieur Collomb s'était opposé à cette mesure, parce que lui aime bien la pollution de l'air par ses amis automobilistes. On rappelle, le chiffre officiel pour la France, c'est 48 000 morts tués par la pollution. Les accidents de la route, c'est entre 3 et 4 000. Ça veut dire que la pollution tue 10 fois plus que les accidents de la route. Donc voilà. Ce qui est reproché, c'est que rien n'est mis en œuvre. Parce qu'il faudra limiter la circulation automobile, hop, on dépasse tel seuil, on interdit soit toutes les voitures, mais ça, personne n'aura jamais le courage, on préfère faire mourir les gens que de mettre une interdiction qui priverait soi-disant de la liberté, qui enlève de la liberté, puisque c'est les défenseurs de l'automobile, ils disent que l'automobile c'est la liberté. Or, c'est le déplacement qui est la liberté. Donc le déplacement, on peut le faire en scooter, en vélo, en train, voilà, il y a moult moyens de se déplacer sans tuer les autres et sans émettre des polluants. Donc voilà, il y a ce que reproche finalement l'Union Européenne, c'est qu'il n'y a aucune mesure de protection de la santé des populations, des enfants notamment, et des personnes un peu plus vieilles qui sont les plus sensibles au niveau des polluants, qui est mise en œuvre par la France. La France est juste ridicule, et donc c'est sur ça que la France risque de se faire condamner. Mais bon, a priori, on va se faire condamner parce que aucune mesure n'est prévue. Alors, on en parlera au mois de juin. Il y a un plan sur la qualité de l'air qui doit être fait par M. Hulot et ses amis. On verra ce qu'il y aura dedans, mais on a des chances qu'il n'y ait rien dedans. Voilà. Oula, il est 20h pile à la pendule, un petit peu en retard de Canu. On va se quitter.
Un agenda, vite fait?
Oui, j'ai un seul truc à annoncer. C'est la Griffe qui fait une sorte d'apéro musical samedi à partir de 17h. Alors, c'est pas du tout...
C'est pas que la Griffe, d'ailleurs.
Oui, moi j'ai noté que c'était la Griffe. La Griffe c'est rue Sébastien Griffe, mais là ils se déportent. Ils vont jusqu'à. J'ai perdu le nom de la place.
Mazagran.
La place Mazagran, tout à fait.
Dans le 7ème, hein,
bien. Dans le 7ème, 17h, et puis ça doit se terminer.
Il y a de la musique, des petits concerts. C'est rendez-vous convivial et familial.
Des livres, un atelier de réparation de livres, de reliure.
Pour profiter du quartier aussi. Moi, juste pour rappel que mardi prochain, il y a une manif avec des fonctionnaires dedans.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Le 22, nous saurons. Et que mercredi à 18h, place de la Comédie, il y a un rendez-vous pour le droit à l'avortement. C'est un rassemblement pour toutes les femmes, ici et ailleurs, partout dans le monde. Je vous rappelle qu'en Irlande, il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc,
voilà, il y a une.
C'est aussi un rassemblement.
Votation, comme on dit en Suisse.
C'est un
référendum.
Un rassemblement de soutien pour ceux et celles qui se battent en Irlande et partout dans le monde. Et puis, pour rappeler qu'en France, ça reste compliqué d'accéder parfois à la. Rendez-vous pour une IVG, d'être dans les temps, d'être bien accompagné. Enfin, on est toujours bien accompagné dans certains endroits. Vous allez au planning familial, par exemple, mais on sait que c'est compliqué aussi d'avoir des rendez-vous. Donc voilà, c'est pour que partout les femmes puissent gérer leur corps comme elles l'entendent, tout simplement, un bébé si elles le veulent ou pas.
C'est loin d'être partout quand même.
Non, mais voilà, donc c'est la semaine prochaine, c'est mercredi, nous serons le 23.
Et voilà, on vous laisse en compagnie des bandes continues de la plus rebelle des radios.
Et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour un nouveau Canu Info du jeudi.
Et demain pour le Canu Info du vendredi.
Avec une autre équipe.
Voilà, bye
ciao,
bye.
Ciao, ciao.